perde son esprit ce que ce soit-il. Nous voici de violer vêtu, enfin me voici de violer vêtu et vous le violez au cœur. La crèche n'a pas encore été installée, c'est une faute de ma part de n'avoir pas veillé cette année, parce que la crèche sera là pour le premier dimanche de l'Avent, c'est pas grave. La crèche n'avait pas la semaine prochaine encore plus belle, scintillant de tous ses feux la semaine prochaine, rassurez-vous. Toujours est-il que nous comprenons par cette couleur-là, par le vêtement de l'autel, que nous sommes entrés dans l'Avent. C'est-à-dire ces quelques jours, je vous apprends bien, qui préparent à cet extraordinaire événement de la naissance du Fils de Dieu venu dans la chair. Nous avons une difficulté récurrente, ou plutôt deux, dans l'ordre de notre vie spirituelle. Et premièrement, cette propension à la dispersion, une sorte de diaspora intérieure, puisque tel des papillons de nuit, baptisés par la lumière, nous sommes sans cesse sollicités par une sorte de stimuli de ce monde, stimuli légitime ou pas, qui entraîne notre pauvre âme à sans cesse se disperser par rapport à ce qui lui est nécessaire, la seule chose nécessaire que le Seigneur indique à Marc, qu'il s'agisse de bien des choses, c'est se tenir à ses pieds et voir la vérité qui tombe de sa bouche. Nous avons encore une autre difficulté dans l'ordre de la vie spirituelle, qui n'est pas de l'ordre de la dispersion celle-ci, mais plutôt de l'ordre de la lassitude, parce que tels de vieux chevaux de trait qui font et refont sans cesse le même chemin, parce que tels encore des ânes qui tournent autour de la meule, nous avons en permanence les mêmes points de vue qui nous reviennent devant les yeux. D'année en année, ce sont les mêmes événements qui se succèdent dans cette année liturgique, justement, et nous en venons petit à petit à nous endormir. Dispersés et endormis, voilà donc la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et voyez-vous, cette situation-là, voilà que saint Paul entend la renverser d'un revers de main dans l'épître que vous avez écouté attentivement et que vous allez relire, qui est savoureuse, avec cette introduction qui est là pour nous secouer. L'heure est venue, nous le savons, de secouer de notre sommeil. Et lorsqu'on regarde le texte original grec, je ne veux pas me piquer de quoi que ce soit ou faire croire à quiconque que je suis un hélénite distingué, mais parfois il est bon de revenir au texte. Et lorsqu'on regarde la formule originelle qu'on voit à saint Paul, on peut la traduire par l'heure est venue de nous réveiller ou encore l'heure est venue de nous laisser, de nous faire ressusciter. Voilà donc ce que le Seigneur, par la bouche de saint Paul, et ce que son Église veulent pour nous aujourd'hui, que nous ressuscitions en quelque sorte, que nous laissions ressusciter notre âme, c'est-à-dire notre intelligence et notre volonté, par la perspective incroyable que nous présente la liturgie, c'est-à-dire ce chemin ultime de préparation à la venue dans la chair du Christ de Dieu. Nous avons, mes frères, 8 mois de retard sur la Vierge Marie, parce qu'elle, c'est depuis le 25 mars qu'elle attend son petit Jésus, et nous l'avons mis en fin de course. Voilà que nous estimons que ce mois-là est un peu long, et que nous risquons de nous endormir, alors nous réservons ce réveil pour la fin de l'avant, la dernière semaine, une fois que nous aurons vaqué aux occupations professionnelles essentielles, que nous aurons eu la possibilité d'entrer en vacances, alors c'est sûr, nous préparerons la fin. Je vous le redis, nous avons 8 mois de retard sur Marie, il est grand temps de se secouer et d'entrer dans ce mouvement que l'Église et la Vierge Marie connaissent par éminence, c'est-à-dire cette ultime course vers la naissance du Sauveur. Et il serait vain de chercher à toute force à orienter notre intelligence et notre cœur vers ce mystère à force de base d'une attente mal comprise et de ratiocination perpétuelle. Le Fils de Dieu va venir, le Fils de Dieu va venir, le Fils de Dieu va venir, ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est comme nous dit ce bon saint François de Sales, de ne rien faire par force, mais de tout faire par amour. Nous devons songer à ce qui va se passer parce que nous aimons le Seigneur Jésus. Nous l'aimons pour cet amour surnaturel qui unit les 3 personnes divines, notre pauvre petit cœur, notre pauvre petite âme, depuis que nous avons été régénérés par les eaux du baptême, est capable de cet amour infini à l'égard de Jésus. C'est donc par amour que nous nous mettons en route vers cet événement incroyable de la nativité. Et voyez-vous, nous avons la chance dans l'Église, je ne vous apprends rien, de disposer d'un modèle en matière d'amour, celle à qui l'on donne le nom de, justement, Notre-Dame Vierge du Bel Amour, c'est-à-dire Marie de Nazareth. Il est tout à fait significatif que l'on désigne par Notre-Dame du Bel Amour une statue où l'on voit Marie de douceur qui enserre son petit bébé dans les bras. Vous voyez que je crois qu'il est tout à fait opportun ce début d'avant de nous tourner justement vers Notre-Dame du Bel Amour, ou Notre-Dame de la Sainte Espérance encore, celle qui est toute tendue vers son Jésus, son petit bouchou, celle qui va nous servir d'exemple. Il se trouve que la Vierge Marie a laissé comme son testament, son témoignage, dans un lieu précis de l'Évangile. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Il s'agit des deux premiers chapitres de l'Évangile de Saint-Luc, ce qu'on appelle l'Évangile de l'enfance. C'est le seul lieu de tout l'Évangile où l'on trouve relatés les événements fondateurs que sont l'Annonciation, la Visitation et encore la présentation et le recouvrement de l'enfant Jésus. Nous trouvons là, sous la coupe de Saint-Luc, le témoignage de la Vierge Marie. Soit que Saint-Luc l'ait cueilli directement de la bouche de Marie, ce qui est probable, mais que les exégètes et les historiens écartent pour divers motifs, soit qu'il l'ait tenu par l'intermédiaire du disciple bien-aimé Saint-Jean, qui lui a passé des heures et des nuits à écouter la Vierge Marie raconter le sens, les événements fondamentaux de l'Annonciation, la Visitation et j'en passe. Voilà que Saint-Luc, donc, est le témoin de la Vierge Marie. Et nous trouvons dans ce début de l'Évangile de Saint-Luc les dispositions dans lesquelles il faut que nous nous trouvions pour contempler le mystère de Jésus. Saint-Luc, ouvrant son Évangile, adressé à Léonie, son cher Théophile, c'est-à-dire celui qui aime Dieu ou celui que Dieu aime, c'est en fait à tout un chacun qui ouvre son Évangile. Et le fait que nous trouvions dès le début de son Évangile le témoignage de ce que Marie a connu du mystère de son Fils, le regard qu'elle a porté sur l'enfant Jésus, est tout à fait significatif. C'est comme si Saint-Luc nous disait, il n'y aura pas d'autre porte d'entrée pour considérer le mystère de l'incarnation que ses yeux, ce cœur de Marie. Vous voyez donc que nous gagnons, mes frères, en ce tout début d'avant, mais je crois tout au long de l'avant en réalité, à lire et relire sans cesse ces deux chapitres premiers qu'on appelle l'Évangile de l'enfance de l'Évangile de Saint-Luc. C'est ainsi que, petit à petit, pas à pas, nous entrerons dans une plus grande connaissance du mystère, une connaissance de l'intérieur, une connaissance mariale, une connaissance amoureuse. Je vous fais remarquer que l'ensemble des cinq mystères joyeux se trouve précisément dans ces deux premiers chapitres de Saint-Luc et pas ailleurs dans l'Évangile. Vous voyez que les choses sont donc très simples et je ne m'étendrai pas davantage. Voilà les devoirs de vacances et les devoirs de semaine que je vous prierai d'accomplir la semaine prochaine fois, et je le ferai avec vous, c'est promis. Prenons donc tout simplement le temps cette semaine de lire, d'égrener ces versets magnifiques de l'Évangile de Saint-Luc, les tout premiers versets de l'Évangile de Saint-Luc, qui sont le témoignage même de la bienheureuse Mère de Dieu. Je crois que ça vaut le coup. Et je vous donne juste une petite clé de lecture, et après je vous laisse, nous allons nous tourner vers le Saint-Mystère, la Messe. Nous avons dans cet évangile-là une présentation tout à fait incarnée, vous le verrez, de ce que saint Paul, qui était le maître de Saint-Luc, dit sur un mode plus abstrait, sur un mode plus théorique. Saint Paul a cette phrase merveilleuse que nous disons dans la Sainte Sainte, Philippiens 2, le Christ, qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il prit la condition de serviteur, étant reconnu pour un homme, etc. Toutes ces choses-là sont quand même très théoriques, très abstraites, et Saint-Luc, en bon disciple de Saint-Paul, ne fait rien d'autre que donner une illustration en dessin et même en couleur, grâce à ce témoignage chaleureux, incarné, que lui a permis de connaître la Vierge Marie, de tous ces événements par lesquels le Fils de Dieu vient dans la chair à notre rencontre et veut être pris par nous. Ce n'est pas lui qui le prend, c'est nous qui le prenons. C'est fou tout de même, pris par nous dans nos bras, comme un petit bouchou qui vient faire fondre notre cœur. Il y a donc ce programme hebdomadaire qui est, je crois, très enthousiasmant, très beau. Si nous nous retrouvons la semaine prochaine, un peu plus simple aujourd'hui. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit.